Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Eh bien, je fais des vocalises. Merci Bernard d'être ici ce soir pour assurer la technique de notre nouvelle émission Pluriel Gay.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et bonsoir à notre invité.
Bonsoir à notre invité.
Voilà, c'est ce que tu fais habituellement. Depuis toujours, tu dis, tu salues l'invité. Alors, on ne va pas changer de bonnes habitudes, parce que moi, après, je suis perturbé. Nous remercions aussi nos auditrices et nos auditeurs de nous rejoindre ce soir. Et notre invité, c'est donc Mehdi Haïfa, que nous connaissons déjà. Nous, on aime bien inviter des gens qu'on connaît et qui sont des militants passionnants, ce qui est le cas de Mehdi. D'ailleurs, Mehdi, on aura même des choses à dire sur la composition. On en a parlé avant de venir à l'émission sur la composition du gouvernement de Macron, c'est Édouard Philippe, hein,
ouais,
c'est ça ?
Gouvernement Philippe.
Voilà, gouvernement Philippe. Bon, mais en fait, le principal sujet de l'émission de ce soir, ce n'est pas ça. C'est aujourd'hui, comme on le sait depuis de nombreuses années, le 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, plus connue sous l'acronyme IDAHOT, c'est un acronyme anglo-saxon. Mehdi Haïfa, toi, t'étais venu déjà il y a longtemps pour, dans le cadre d'une mission sur le refuge. Alors, le refuge, c'est une association qu'on a souvent invitée à l'émission. C'est même il y a 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, d'ailleurs, les années passent tellement vite. Ça a été la première émission que j'ai faite ici en studio. Ça a été avec le refuge, le président de l'époque notamment. Et puis, le refuge est revenu régulièrement parce que le refuge est un des grands acteurs de la lutte contre l'homophobie, justement. Toi, Mehdi Haïfa, en fait, tu avais un petit peu parlé de toi la dernière fois. Tu es un ancien du refuge. Tu oui. as été réfugié au refuge, on peut le dire.
Oui, si on peut le dire.
J'ai été. Alors, le refuge, peux-tu nous rappeler rapidement, en fait, quel est l'objectif du refuge ? Quels sont les objectifs du refuge ?
Alors, c'est une association d'intérêt général qui vient en aide aux personnes victimes d'homophobie, de transphobie, qui sont rejetées du domicile familial, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc c'est des jeunes qui sont en errance pour la plupart et qui se retrouvent beaucoup à la rue. Le refuge leur propose un hébergement, un suivi socio-professionnel et psychologique pour les permettre d'atteindre leur indépendance et leur autonomie et enfin vivre leur vie en adulte autonome.
Oui, alors on avait effectivement parlé des cas extrêmes de personnes qui se retrouvent effectivement à la rue, sans complètement démunies parce que chassées par leur famille du fait que leur homosexualité avait été dévoilée ou qu'ils avaient fait leur coming out.
Oui.
Ce qui a été ton cas d'ailleurs.
Oui.
Hein, sans rentrer à nouveau dans les détails, mais donc toi, tu as été chassé de chez toi, ni plus ni moins.
Voilà, par ma mère qui n'a pas accepté mon homosexualité, donc. Ça a été des insultes, des coups et la rue. Et après, ben, j'ai trouvé refuge au refuge. Et je reste à peu près 6 mois, de 2012 à début 2013. Et ben, j'ai trouvé mon indépendance et mon autonomie à la fin de la passerelle qu'est le refuge.
Ouais. Donc le refuge est, comme tu le rappelais, une association d'intérêt général, c'est ça ?
Oui, donc qui s'occupe des LGBTI. Oui, parce qu'il y a plein d'acronymes, de 18 à 25 ans. Des fois, il y a des dérogations qui peuvent aller un peu plus, des personnes de 26 ans, 27 ans. Et pour les mineurs aussi, mais à Lyon, apparemment, ce que Myriam a dit la semaine dernière, ce n'est encore jamais arrivé, mais à Montpellier, oui. Il y a des mineurs qui sont au refuge, mais sous décision de justice uniquement. Donc voilà.
Alors le refuge propose un hébergement,
oui.
Mais il propose aussi un accompagnement, un suivi,
oui,
c'est pour la réinsertion professionnelle ou scolaire.
C'est ça, c'est un accompagnement. Alors en plus de l'hébergement, bien entendu, il y a une salariée qui est travailleur social, elle est éducatrice spécialisée, c'était Carole.
Ça, à Lyon, tu parles.
À Lyon, qui s'occupe d'être présente pour les jeunes au quotidien, pour les permanences en semaine. Qui est en charge du suivi de leur parcours et du suivi des démarches qu'ils entreprennent pour administrativement parlant ou pour le logement, pour le travail, pour tout ce qui entoure le jeune pour l'amener justement à son autonomie, à son indépendance. En plus de ça, il y a des pôles emploi, il y a des pôles logement qui sont dirigés par des bénévoles et des pôles convivialité pour permettre aussi aux jeunes de souffler et de se retrouver.
Alors, l'association Le Refuge, c'est une association donc, qui a essaimé dans toute la France, qui est née à l'origine à Montpellier maintenant, donc propose des hébergements dans beaucoup de grandes villes françaises.
Oui, 18 délégations, et Le Refuge a été créé en 2003 par Nicolas Noguier à Montpellier.
Et les demandes sont toujours aussi importantes ?
Les demandes sont toujours aussi importantes.
Voilà, parce que la dernière fois que vous étiez venu, vous disiez que vous receviez, enfin que Le Refuge au niveau national recevait quand même des centaines de demandes mensuellement. Je ne sais plus quel était le chiffre exact. Tout ne pouvait pas être traité. Il fallait donc établir en fait une hiérarchisation des dossiers, quoi. Ceux qui pouvaient être traités. Puis du fait même aussi, bon, il faut, je pense, regarder les dossiers. Mais aussi, il y a le problème du nombre de logements, de possibilités de logements qui est réduit encore.
Oui, même si ça a augmenté. Après, c'est sûr. Que, alors, si j'ai bon souvenir, je crois qu'à peu près un peu plus de 80 places d'hébergement
sur toute la France,
sur toutes les délégations, je vais pas me tromper.
Et donc, c'est des centaines de demandes par mois. Enfin, je sais pas, à l'époque, on avait évoqué.
Alors, à l'époque,
200, je crois, par mois.
À l'époque, c'était si élevé parce que aussi, il n'y avait pas autant de délégations. Ouais. Le refuge a grandi d'une façon exponentielle très rapidement. Très rapidement. Et donc, voilà, on se retrouve aujourd'hui avec 18 délégations, donc on peut plus facilement répartir les jeunes qui en font la demande. Alors que quand on se retrouve à 3 délégations, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de demandes et plus de difficultés, pardon, à gérer l'hébergement pour les jeunes qui sont en demande.
Voilà, donc on peut dire qu'en cette journée de Lead Out, donc la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le refuge qui est un des grands acteurs révèle en tout cas, est un révélateur aussi, puisque encore aujourd'hui des jeunes gens, des jeunes filles sont chassés de chez eux du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité sexuelle, puisque ça concerne aussi le transgenre éventuellement. Je sais qu'il y a des personnes transgenres qui sont accueillies au refuge également. Voilà. Donc, pour dire que il est évident que sous plusieurs l'homophobie revêt beaucoup d'aspects et celui-ci en est un des plus terribles finalement, puisqu'il se passe dans le cadre de la plus grande intimité, celle de la famille, du cercle familial qui est normalement protecteur, normalement, mais pour lequel l'homosexualité ou le transgenre peut faire un rejet total, quoi.
Oui, bah un rejet total.
Ce qui t'est arrivé, par exemple, ce qui est arrivé à d'autres.
Oui, ce qui arrive encore maintenant. Voilà, et ce qui est pour mon avis personnel, qui n'est encore pas prêt de s'arrêter. Hein.
Oui. Alors, justement, on va évoquer au cours de cette émission plusieurs aspects pour revêtir l'homophobie. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, le 17 mai, traditionnellement, c'est la publication donc du rapport des chiffres en fait sur l'homophobie, la transphobie, qui est fait par SOS Homophobie et qui, ce soir d'ailleurs, fait l'objet d'une soirée au Lavoir où le texte va être dévoilé, je dirais, et les chiffres surtout, et puis commenter également. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que d'ailleurs, je n'ai pas tous les détails, mais il semblerait quand même que les dénonciations de faits, en fait, les révélations de faits d'homophobie et de transphobie sont en augmentation de 20% à peu près cette année. Donc, ce sont des faits qui peuvent être soit des actes liés à des discriminations dans le travail, qui peuvent être des actes physiques, de violence physique, sur des personnes pour raison d'homosexualité supposée ou pas, ou de transgenre, parce que c'est des personnes transgenres, mais aussi beaucoup, on en parle depuis de nombreuses années, les réseaux sociaux sont une sorte de défouloir finalement, de personnes pas très courageuses de leurs opinions finalement, et qui profitent des réseaux sociaux pour traquer parfois et pour envoyer des insultes extrêmement graves, extrêmement violentes. Et on disait hors antenne aussi que tu en as été une des victimes par rapport à ton compte Twitter, en fait.
C'est clair que les réseaux sociaux, c'est la caisse de résonance de la société. Que les choses soient claires, l'homophobie, elle est extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, les forums communautaires ou autres, la parole haineuse, elle est très développée et elle est libérée. Il est beaucoup plus facile d'injurier, de menacer de mort les personnes derrière un ordinateur. Et le problème, c'est que ces propos, il y a des jeunes qui peuvent les lire et qui peuvent se sentir blessés. Et ça peut vraiment remettre en question l'homosexualité de la personne. Enfin, pas remettre en question, mais comment dire mettre le jeune en difficulté dans son acceptation. Et le problème, c'est que dans les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a presque aucune réaction. C'est que les tweets ou les commentaires ou etc. ne sont que très rarement supprimés. Ça crée aussi une sorte de justification et d'impunité. Donc, les auteurs se sentent impunis, donc ils continuent leur haine sur les réseaux sociaux. Heureusement, il y a quelques élus qui osent dénoncer et déposer plainte, donc quelques-uns, donc Yann Brossa de Paris, élu à la mairie de Paris, qui a porté plainte, qui a fait condamner deux utilisateurs de Tudor, pardon. Et donc c'est un signal fort, mais encore trop faible, parce que c'est forcément, il faut que ça tombe sur les premières victimes, nous, les homosexuels. Donc c'est vrai que notre association, l'Amicale des jeunes du refuge, a elle aussi été victime parce qu'on a volé lutte contre l'homophobie sur les réseaux sociaux, justement, où, étant donné qu'on a fait fermer des comptes, on a eu beaucoup de mal pour les faire fermer, on les a fait fermer, et donc on a reçu en représailles des insultes, des menaces de mort, des photomontages avec des photos de Daesh qui me décapite moi, par exemple. Donc, et ça, c'est quotidien. Il suffit simplement d'ouvrir Twitter, taper homophobie ou homosexuel dans la barre de recherche et vous verrez le déferlement de haine présent. Et ça, c'est quotidien. Et là, on parle des homosexuels et des transsexuels, mais c'est équivalent pour les juifs, pour les musulmans, pour tout ce qui est minorité.
Donc, en fait, il s'agit, oui, comme on disait, d'un défouloir facile, finalement, et assez lâche. Quelque sorte, mais effrayant parce que c'est aussi un peu le miroir de ce que les gens ont en eux. Ils sont peut-être pas exprimés en société, mais ils le font à travers.
Ces gens, quand ils s'expriment sur les réseaux sociaux, mais c'est eux dans la vie réelle. J'ai du mal à concevoir qu'on peut avoir une double personnalité virtuelle et réelle. Donc ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, c'est leur ADN ancré en eux profondément.
Alors, tu as évoqué, et ça va me faire une excellente transition, l'association l'Amicale des Jeunes du Refuge. Alors, c'est une association qui est affiliée au Refuge, je crois, mais qui est différente, enfin, qui a d'autres objectifs. C'est toi qui l'as fondée.
Alors, c'est avec le président Nicolas Noguier qui m'a demandé si ça m'intéressait de créer une sorte d'amicale qui regrouperait les anciens jeunes du Refuge. J'ai dit oui. Si tu m'en donnes les moyens, pas de souci. Donc, on a rédigé les statuts. Et alors, on a une convention de partenariat avec le refuge. On est affilié au refuge, mais on n'est pas le refuge. Il faut bien faire le distinguo. L'Amicale des jeunes du refuge, c'est une association qui vient en aide aux anciens, mais aussi aux jeunes qui sont actuellement hébergés. On essaye de leur montrer que par notre présence, par notre aide ou par notre expérience, que le refuge fonctionne, parce que si on est là, c'est que ça fonctionne. Leur donner des conseils aussi sur la vie en colocation dans les appartements, parce que les bénévoles ne le savent pas, ils n'ont pas vécu au sein même des appartements avec les autres jeunes. Donc voilà, il y a une sorte de solidarité, d'entraide. Et aussi, on est une grande porte ouverte pour les futurs anciens jeunes. Donc quand ils quittent la structure, s'ils le souhaitent, ils peuvent intégrer l'Amicale des jeunes du refuge et à leur tour redonner une sorte d'aide de ce qu'ils ont reçu.
Ça permet aussi de garder du lien aussi.
Voilà, c'est de tisser du lien, garder du lien avec les anciens. Et chaque mois, on organise par exemple...
Un banquet.
Un repas de l'amicale chaque mois. Un repas de l'amicale au sein des appartements du refuge avec les jeunes. Et c'est les jeunes qui choisissent leurs bénévoles qui veulent venir. Donc on fait ça avec les jeunes, on prépare à manger avec eux. C'est convivial, ça permet de se connaître, de tisser des liens, parce qu'on a tous eu la même expérience. On vient tous, soit de la rue, soit trois quarts du rejet familial. Donc on a une histoire un peu qui se ressemble.
Alors, le Refuge, c'est une association donc très importante et qui pourtant a fait l'objet parfois de critiques. Apparemment, ça s'est un petit peu calmé là. Là, on disait qu'il y avait des sélections un peu rigoureuses par rapport à des personnes qui auraient été, par exemple, expulsées du refuge de façon intempestive, etc. En plein hiver, par exemple, alors qu'elles n'avaient pas accompli leurs 6 mois donc de séjour, on les avait éjectées. on a entendu beaucoup de choses comme quoi le refus aurait presque été une secte où on était obligé d'entrer dans un moule, etc., dans lequel il fallait se conformer, etc. Alors ça, c'était un petit peu des critiques qui étaient quand même des critiques assez isolées dans l'ensemble, souvent émanant d'autres associations, de personnes d'autres associations. À quoi tu attribues déjà cette salve de critiques qui ont été faites à l'époque ?
Déjà, c'est bien de remettre les choses dans leur contexte. On parle de Rue 89, on parle d'un seul article.
Ouais. Oui, alors organe, c'est vrai que Rue 89 a fait paraître un article, ça
voilà,
c'est vrai.
On parle d'un seul organe de presse, venant d'une personne, puisque Lyon est attaqué personnellement dans l'article aussi. On parle d'un journaliste qui ne s'est pas déplacé, qui n'est venu dans aucune délégation. Alors... Rue 89, journal d'investigation, entre parenthèses, hein, enfin, on se déplace, on essaie de comprendre pourquoi. Après, mais comme tout organisme social, comme toute structure sociale, bien sûr, quand une personne ne respecte pas le règlement, eh ben, y a des avertissements, il y a des mises en demeure et il y a des expulsions. Et ça se fait partout, mais partout. Et il ne faut pas oublier qu'on parle de jeunes, mais il ne faut pas oublier qu'on parle aussi d'adultes. Et on parlait du jeune en particulier dans l'article, qui, lié à des comportements agressifs à Toulouse, ben, s'est vu remettre un stop, enfin une expulsion, parce qu'il y a un comportement qui ne respectait pas le règlement et qui déstabilisait aussi le groupe entier. Donc voilà, après chacun a ses responsabilités. Pour ce qui concerne des 6 mois, alors non, c'est un mois tacitement renouvelable. Mm-hmm. Donc voilà, c'est pas 6 mois, c'est rentré, c'est écrit, peu importe ce que tu fais pendant 3 mois, 6 mois, t'as l'air à rien. Non, il y a des règles à respecter comme dans toute structure. Et le refuge, encore une fois, n'a pas d'obligation en termes de nourriture, etc. Mais il le fait. À Lyon, il y a une banque alimentaire et ils ont en partenariat avec Franprix, donc les jeunes ne meurent pas de faim.
Oui, il y avait eu ça, effectivement.
Mais oui, il y a eu ça.
On parlait de malnutrition, de mauvaises conditions de logement.
C'était aberrant. Et ce cocon venait de deux personnes, deux, trois personnes. Un jeune et un soi-disant ancien bénévole qui a quitté les fonctions parce qu'il avait des rapports assez particuliers avec certains. Enfin, il faisait venir les jeunes chez lui quand même, alors que c'est interdit dans le règlement. C'était particulier. Mais voilà, il y a la réalité, il y a les faits. Et moi, j'ai tendance à croire plus la réalité des faits plutôt d'un papier qui est écrit par un journaliste qui n'est pas venu. Parce que le journaliste parle du jeune qui de Lyon, un seul de Lyon, un autre de Lyon, qui dit qu'il dormait avec une nappe pour... Alors, moi, ça me fait rire parce que la chambre où il dormait, j'y ai dormi, moi. Mm-hmm. Et il n'y a pas de nappe. Déjà, il n'y a pas de table avec une nappe. Alors, il n'y a pas de nappe tout court. Donc, et si le refuge est aussi respecté, et si les pouvoirs publics le suivent depuis autant d'années et continuent encore aujourd'hui à le suivre, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi. Donc, voilà.
Voilà. Et c'est vrai que ces critiques, tout ça, avaient été relayées un peu sur les réseaux sociaux, etc. Ça avait pris un peu d'ampleur à un moment, puis ça s'est calmé depuis. On n'entend plus parler de rien depuis longtemps.
Les critiques, encore une fois, ça venait que d'un seul article. Hein, Mediapart avait fait un contre-article pour dénoncer cet article qui était à charge, qui était sans fondement, sans investigation, qui prenait la parole d'un jeune pour argent comptant. YAG a fait un article aussi en question pour essayer de comprendre. Ils ont interviewé aussi Nicolas Noguet et Frédéric Gall. Et après, bien sûr, comme dans... Je sais pas si c'était l'objectif de Rue 89, mais la fachosphère s'est élevée. Donc, c'était... les lobbies LGBT dilapident l'argent public, etc., etc. Parce qu'il y a aussi une question d'argent dans l'article 89. Enfin, il s'est aussi oublié que l'association Le Refuge, comme toute association qui reçoit des subventions, a l'obligation de tenir des comptes. Et c'est un expert comptable qui regarde ces comptes. Et qui est détaché par l'État, qui n'appartient pas à un refuge. Et les comptes sont publics, ils ont toujours été publics. Voilà, c'est pas compliqué d'aller chercher, on voit qui donne, on voit ce qu'on fait avec l'argent. Enfin, il n'y a rien de plus transparent que ça.
Mais quand tu parles de la fachosphère, Mehdi, mais il y a eu des échos qui ont été rapportés et qui ont été rapportés par des membres de personnalités associatives LGBT.
Oui, mais je pense vraiment qu'il y a une jalousie.
C'était le nom, évidemment.
Ah, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'il y a une jalousie interassociative. Je pense que le refuge est très médiatisée, a été, et continue de l'être, d'être médiatisée, respectée pour son travail et reçoit beaucoup de subventions. Et certaines associations ont peut-être l'impression de se sentir lésées parce qu'ils ont raté telle ou telle subvention. Enfin, ils oublient qu'on travaille tous pour le même but, c'est pour aider ces jeunes, aider à la lutte contre l'homophobie. Et je pense qu'il y a réellement une jalousie et c'est dommage, mais je pense que c'est partout pareil. Ouais.
Donc, le refus, par ailleurs, est la seule association, je crois, qui soit déclarée d'intérêt...
Reconnue d'utilité publique.
D'utilité publique, ouais.
C'est la seule.
Alors, c'est vrai aussi, à l'époque, on avait beaucoup parlé de la médiatisation et surtout du fait que des grandes stars, etc. Mais ça fait aussi avancer la cause. Je pense des grandes stars, à Jennifer, par exemple.
Mais bien entendu, on a une marraine, Jennifer, qui est super. Mais bien sûr que c'est une visibilité supplémentaire pour le refuge.
Pour le grand public aussi,
mais aussi, on a besoin de faire... l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on peut pas payer les loyers pour les jeunes où ils sont hébergés. On peut pas payer l'électricité. Enfin, on a besoin aussi de cette exposition médiatique pour alerter l'opinion publique sur ce qui se passe en France, sur l'homophobie, sur le rejet familial. Donc, c'est aussi une réalité.
Oui. Alors, Mehdi, tu nous as amené une musique. Bernard se prépare. Alors, explique-nous un peu ce que c'est. Moi, je connais pas du tout.
Alors, c'est Ré la montagne. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Et c'est une chanson que... Enfin, la voix du monsieur qui chante, moi, je la trouve merveilleuse. Donc,
On va écouter. Qu'en penses-tu, mon Bernardo ? Il est d'accord.
Going out of my mind. Don't even know my own name at the time. How'd I get so blind that I couldn't see what was right in front of me? I wish I was wrong. I wish that you were right here lying in my arms. Deep down inside, I got to face the truth. You're not coming home. This life is over. This love is over. God knows I tried everything I could to keep you satisfied. Then my baby was just about you play. So some kind of game, just like a child. Like a child, you got to have your way. Nothing ventured, nothing gained. Now there's nothing left to say. This life, it's over. This love. Get along. Sometimes you got to make it on your own. It's more than my pride. It's got me all tied up inside. Girl, it's all the line. Think it's time to close the door. I don't wanna cry anymore. It's just not worth the fighting for. This life.
Pluriel, 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 pluriel. Yeah.
Et nous voici de retour sur l'antenne de Pluriel Gay avec Mehdi Haïfa, ancien du Refuge et fondateur de l'Amicale des Jeunes du Refuge, dont nous venons de parler. Donc reste bien avec nous parce que j'aurai encore des choses à te demander. Je voulais parler un petit peu maintenant, enfin j'ai un contact, on va dire, chez Amnesty International. La Queer Amnesty, qui est la branche LGBT de Amnesty International, avec qui j'ai discuté un petit peu il y a récemment au sujet de ces affaires, donc ces événements, plus que des affaires, ces événements terribles dont on entend parler partout depuis un mois en fait. Alors, ces événements qui ont lieu en Tchétchénie et qui consisteraient donc à la répression des homosexuels en Tchétchénie. Voilà. Alors, quand on parle de répression, c'est internement arbitraire, prison, torture, etc. Voilà. Tout pour fait d'homosexualité. Alors donc, je lui ai demandé, mais est-ce que tu vous en avez entendu parler ? Il me dit, bien sûr. Et comment est-ce que... quelles informations réelles vous avez ? Alors, il m'a fait parvenir déjà un petit... Un petit questionnaire qui avait été adressé à Amnesty International. Il n'a pas voulu s'exprimer lui-même parce qu'il m'a dit « je parle pas assez bien français, je préfère attendre qu'on fasse une émission plus préparée, où je sois présent physiquement », donc qui j'espère aura lieu. Et donc il m'a adressé un petit questionnaire il m'a transmis un petit questionnaire qui avait été fait par la Fédération Suisse des Associations LGBTI à Amnesty International. Cette fédération, c'est équivalent en France de l'inter-LGBT. Et il m'a transmis un petit peu ce qui s'est dit donc, au sujet dans ce questionnaire, dans cette interview. La première question qui a été demandée, c'est est-ce que Amnesty... Alors ça remonte à peu près un mois après la publication par le fameux journal russe, je reviendrai peut-être un petit peu plus tard, ce journal s'appelle Novaya Gazeta, qui avait diffusé cette information d'une répression des homosexuels en Tchétchénie. La première question donc, de la Fédération Suisse des Associations LGBTI à Amnesty International a été la suivante. Est-ce que Amnesty International confirme l'existence de camps de concentration ? Parce qu'on avait parlé de camps de concentration. Donc, camps de concentration en référence aux camps nazis, de la mort, etc. Donc, existe-t-il des camps de concentration pour les gays en Tchétchénie ? Et Amnesty International avait dit, attention, il faut être prudent quand on parle de terminologie, quand on utilise cette terminologie. Pour Amnesty International, ce sont des lieux de détention qui ne concernent pas que les homosexuels, mais où effectivement des homosexuels sont enfermés pour des raisons d'homosexualité, apparemment. Parce qu'ils sont présumés gays, ça concerne essentiellement des hommes, et parce qu'ils sont présumés gays. Ils sont retenus en fait dans un site, qui est un site de la police, qui se trouve près d'une ville qui s'appelle Argun. Alors, ne demandez pas où ça se situe en Tchétchénie. Déjà, la Tchétchénie, j'ai dû regarder sur une carte, je l'avoue, où ça se trouvait. Même si on en avait beaucoup entendu parler à l'époque de la guerre entre les Russes et les indépendantistes tchétchènes. Et donc, c'est un ancien site utilisé par la police, centre d'interrogatoire, tout ce qu'on peut imaginer. De très longue date apparemment, hein, remonte à l'époque soviétique, et à plusieurs corps de bâtiments, et dans certains bâtiments seraient effectivement détenus spécifiquement des personnes dans un des bâtiments, donc des hommes arrêtés parce qu'ils sont gays, parce qu'on les présume gays. Voilà, donc il côtoie aussi des gens dans ces bâtiments qui sont des suspects, des personnes suspectées de sympathie pour le groupe État islamique, contre lequel la Russie lutte aussi. Ou d'ailleurs des personnes arrêtées pour usage de drogue, etc. Donc il y a vraiment un mélange des détenus de droit commun aussi, enfin c'est un mélange de tout. Amnesty International a reconnu, on ne peut pas le faire pour l'instant, de vérifier de façon indépendante la réalité de ce qui a été dit par la Novaya Gazeta. Donc on parle aussi d'un autre centre de détention en Tchétchénie dans des mêmes conditions, etc. Donc Amnesty International, il y a en tout cas un mois, et ça n'a pas trop changé depuis, t'es pas très très sûr en tout cas de l'emploi pensait que le camp de concentration, en tout cas ce terme là était un peu exagéré. Par tout compte, Amnesty International pense que les faits rapportés par la Novaya Gazeta sont des faits qui sont probablement vraies, dans la mesure où Novaya Gazeta est un journal qui est très et qui est renommé pour son travail d'investigation. Il y a vraiment eu un travail de d'investigation de la part des journalistes de ce journal russe. Donc, c'est un journal russe qui n'a pas bonne presse auprès de Vladimir Poutine et de son pouvoir. C'est une presse qui a fait un journal qui a fait l'objet de beaucoup de pression de la part du pouvoir du Kremlin. Donc, et on connaît notamment le triste sort donc d'une journaliste de journal, donc Anna, alors je parle pas très bien russe, hein, je suis désolé, Anna Politkovskaya, voilà, qui Anna Politkovskaya, dont on a quand même beaucoup entendu parler dans les médias, puisque elle a travaillé pour ce journal très longtemps, elle a couvert les événements du conflit tchétchène à l'époque des deux guerres, donc entre les indépendantistes tchétchènes et la Russie, et elle a été quand même assassinée. Hein, elle a été assassinée, je crois, dans son escalier, en allant dans son appartement. Elle a été assassinée. Voilà. Donc, un crime commandité. Tout le monde a supposé, sans pouvoir le prouver, que c'était évidemment... voilà, que ça venait de très haut. Les instructions, les assassins avaient été envoyés, délégués de très hautes instances de l'État russe. Alors, la correspondante qui a écrit l'article en question, nous dit Amnesty International, s'appelle Elena Milashina. Et elle-même... a reçu des menaces de mort, souvent d'ailleurs, des menaces de mort à titre privé aussi sur son compte Twitter ou par lettre, par courrier, etc., sans que ce soit des menaces qui soient... c'est anonyme, quoi. C'est une journaliste spécialiste de la Tchétchénie, Elena Milashina, et c'est elle qui a écrit l'article sur la base donc d'investigations qu'elle a faites. Elle connaît très bien la Tchétchénie. Et ça a été, en plus, partout le marché, ça a été un contact très fiable d'Amnesty International pendant des années, hein, dans tous les domaines concernant les droits de l'homme en Russie et surtout dans le cadre du conflit, toujours le même, hein, tchétchène, entre les Russes et les indépendantistes tchétchènes. Donc, Amnesty International dit « Nous avons un préjugé favorable sur ce qui est écrit quand même, enfin favorable. Les faits malheureusement évoqués, en tout cas, peuvent être quand même considérés. Hein, considéré. Les allégations sont quand même graves et surtout se passent dans un contexte d'impunité totale. Il s'agit donc de violations de droits humains, mais les autorités tchétchènes en sont aussi un peu les spécialistes, on dira. Ce n'est pas la première fois qu'en Tchétchénie, des violations des droits humains commis en toute impunité ont lieu, pas seulement contre les homosexuels. Donc c'est aussi un facteur qui tendrait à faire penser qu'une telle répression existerait effectivement. Bon, depuis, on a eu quand même des témoignages de personnes qui l'ont subi aussi. Hein. La question qu'a posée la Fédération suisse des associations LGBTI et Amnesty International, c'est quelle est la situation des personnes LGBTI précisément en Tchétchénie ? Donc, Amnesty International rappelle que la Tchétchénie, c'est un climat d'intolérance générale qui règne en ce qui concerne l'homosexualité. C'est un climat d'homophobie généralisée. C'est un pays de traditionnaliste, de familial, où le clan familial est à la base, et où tout ce qui peut être un peu exogène au clan familial, c'est-à-dire sortir un peu de la tradition, est rejeté, puisqu'il existe encore en Tchétchénie les traditions du crime d'honneur. Femme punie pour adultère, par exemple, etc., punie publiquement, sont les crimes d'honneur ou sont des assassinats, mais des assassinats qui souvent restent impunis, hein, pour des motifs discriminatoires. Donc j'évoquais la femme adultère parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais le crime d'honneur, c'est ça, où le frère qui a déshonoré sa famille, on peut l'assassiner, quoi. Le clan décide de son élimination, on le fait, sans qu'il y ait vraiment ensuite de poursuites judiciaires, etc. Voilà, ici par exemple des hommes qui auraient publiquement souillé l'honneur de la famille. Évidemment, les homosexuels, on peut supposer qu'ils souillent l'honneur de la famille. Donc, on peut penser qu'effectivement, des crimes d'honneur peuvent avoir lieu aussi sur des homosexuels, des assassinats, donc parce que la personne est homosexuelle. Amnesty International rappelle donc que les auteurs de ces meurtres, il s'agit de meurtres, jouissent souvent d'une totale impunité pour ces faits. Et puis il y a aussi beaucoup de vidéos, tant en Russie qu'en Tchétchénie, qui s'en prennent violemment aux personnes LGBTI. et aux revendications, notamment de plus de visibilité, etc., LGBTI à travers le monde, et s'est attaqué. Hein, cette forme de militantisme en plus de visibilité est vigoureusement attaquée dans des vidéos, etc., en Tchétchénie. Donc, par contre, évidemment, les autorités tchétchènes rejettent complètement les allégations de ce journal de russe, le Novaya Gazeta, donc. Le porte-parole du président, du chef d'État de la Tchétchénie, qui s'appelle Ramzan Kadyrov, c'est donc le chef d'État qui s'appelle comme ça, son représentant c'est Alvou Karimov, a déclaré brièvement, à ce qu'il a dit il y a 3 semaines de ça à la presse, que vous ne pouvez pas arrêter ou réprimer des personnes qui n'existent tout simplement pas dans notre République. Ce qui est une forme aussi de défense, de déni qui a déjà existé dans d'autres pays. On dit, mais chez nous, l'homosexualité n'existe pas, c'est un phénomène importé de l'étranger, importé de l'Occident. Je rappelle que la Tchétchénie, c'est un État qui fait partie de la Fédération russe, qui est un État semi-autonome, en fait. Mais son président, son chef d'État, Ramzan Kadyrov, est quand même sous la tutelle de Moscou et de Vladimir Poutine. Alors, la question ensuite qui était posée à Amnesty International, c'est que fait Amnesty pour les personnes LGBTI en Tchétchénie? Est-ce que il y a une action? Alors oui, Amnesty International dit on a déclenché une action auprès des autorités russes déjà pour les interpeller, parce qu'il est très difficile d'intervenir directement en Tchétchénie, d'autant plus qu'il leur faut des cas très concrets. Et il faudrait aussi qu'ils puissent eux-mêmes faire des investigations, ce qui semble très difficile pour l'instant. Mais comme ils sont persuadés que les faits rapportés dans l'article du Novaya Gazeta sont en grande partie reflètent la réalité, ils sont intervenus auprès des autorités russes, donc pour que les responsables des crimes et soient punis, en fait. Là, ils parlent plutôt des crimes d'honneur dont je parlais, qui peuvent causer donc la mort d'homosexuels. Après, en ce qui concerne les personnes arrêtées légalement, entre guillemets, donc par la police, enfermées sous fait d'homosexualité, c'est beaucoup plus difficile d'agir, surtout en Tchétchénie. Alors, Amnesty International s'adresse plutôt à Moscou, au pouvoir central, en disant, écoutez, voilà, il faut faire quelque chose. Alors, je ne sais pas si leur voix est bien entendue, mais hein, ils le font. Ils ont demandé aux autorités russes, par exemple, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tout individu qui pourrait courir des risques du fait de leur orientation sexuelle réelle ou présumée, et de condamner dans les termes les plus forts tout commentaire discriminatoire fait par des officiels, et aussi des actes discriminatoires faits par des officiels en Tchétchénie. Alors, on sait qu'Amnesty International, par contre, travaille de façon très liée, il le rappelle, avec le réseau LGBT russe, puisqu'il y en a un quand même, il n'y en a pas certainement en Tchétchénie, mais du côté russe, oui, quand même, ils sont organisés, il y a un réseau d'associations qui ont beaucoup de difficultés à travailler, puisque en Russie, il est interdit la promotion, entre guillemets, de l'homosexualité. Donc toute action publique est considérée comme une promotion d'homosexualité. Donc ils ont une marge de manœuvre qui est très réduite en Russie. Donc Amnesty International ne peut que s'appuyer, en tout cas, sur ce qui existe en Russie, sur cette fédération, et essaye de se tenir au courant le plus possible. Mais il est vrai qu'on est dans un contexte un peu difficile, on le voit bien, pour agir. Donc Amnesty International ne peut pas faire plus que le permet son pouvoir, quoi. Alors, je voudrais signaler qu'il existe un site très intéressant, qu'un site suisse, parce que, comme je le disais à Mehdi avant de venir, la Suisse, les associations LGBTI suisses sont souvent très investies dans l'international, dans les cas de discrimination liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité sexuelle à l'international, du fait, bon, on connaît la neutralité de la Suisse, la présence de nombreux organismes internationaux en Suisse également. Et il y a un site suisse militant que je conseille, je rappellerai l'adresse, qui s'appelle nocamp.ch, nocamp, donc nocamp.ch, où vraiment, au jour le jour, on a des informations, des informations vérifiées sur ce qui se passe en Tchétchénie, avec une remise en contexte, etc., qui est très bien faite. Ça, je conseille pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la Tchétchénie, sur ce qui se déroule actuellement en Tchétchénie. Ah oui, alors, donc, il y a eu aussi l'exigence de la part des autorités tchétchènes, donc du ministre de la Presse et de l'Information de Tchétchénie, qui s'appelle Jambulat Oumarov. Je sais pas pourquoi je vais me faire du mal en voulant absolument prononcer des noms que je n'arrive pas à prononcer, mais ce n'est pas grave. Donc, ce ministre de la Presse a exigé que le journal, le Novaya Gazeta, s'excuse auprès du peuple tchétchène pour avoir évoqué la présence d'hommes homosexuels en Tchétchénie, ce qu'il a qualifié de répugnante provocation. Oumarov a également exigé que le journal révèle ses sources et a averti que si Novaya Gazeta n'arrête pas de publier des commentaires hystériques au sujet de menaces inexistantes, alors des personnes qui sont encore plus agacées que nous s'occuperaient de ces journalistes. Voilà, ça vous dit un petit peu le climat qui peut régner en Tchétchénie. Et il se passe apparemment quand même quelque chose là-bas de grave.
Alors, tu disais que le rapport date de un mois.
Oui, parce que c'est la Novaya Gazeta a révélé il y a peu plus d'un mois.
À le 1er avril. Ouais. Il y a eu d'autres articles entre-temps et d'autres révélations. Il y a eu on sait qu'il y a à peu près 200 personnes qui sont enfermées sur trois sites. C'est pas deux, c'est trois. Argoun et trois autres sites qui sont des prisons secrètes. Donc, on sait qu'il y a eu plus de trois morts. Ils ont subi des tortures corporelles vraiment inimaginables. Et France 2 est allée sur place, pas en Tchétchénie, mais en Russie, parce que le réseau LGBT Network a exfiltré, parce que personne n'a été libéré. Ils ont été quelques-uns en Russie à s'enfuir des lieux. Et donc, ils sont en lieu sûr en Russie, entre parenthèses, dans des appartements sécurisés d'association LGBT Network. Et donc, on a vu les photos aussi et les vidéos des victimes. Ils relatent aussi, parce que c'était un peu conditionnel, mais là, ils relatent, les victimes relatent que dans des pièces avec 50 personnes autour d'eux, nues pour la plupart, dans le froid, affamées, torturées à l'électricité, battues, traînées, lacérées. On a des photos aussi de d'hommes qui sont abîmés corporellement, enfin qui ont des séquelles pas possibles sur leur corps, des bras cassés, des jambes cassées, mais qui sont encore en vie. Là tu parlais tout à l'heure de crimes d'honneur. Il y a deux semaines, je crois, Kadyrov disait justement à son peuple de nettoyer toutes les tares de sa famille. Son message a été écouté parce que un jeune adolescent de 17 ans a été jeté du 9e étage par son oncle avec l'approbation des parents. Donc il est mort, bien entendu, à 17 ans. Et donc là, je reprends un autre article qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Trois associations françaises, et ça aussi c'est révélateur parce qu'aucune ne l'a fait, a déposé plainte auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, pour génocide. C'est ni l'État français, ni un autre État européen qui a fait cette démarche, qui aurait pu le faire, mais qui ne l'a pas fait, par manque de courage, parce que c'est la Russie, on ne sait pas. Mais donc c'est Stop Homophobie, l'association Mousse qui vit à son avocat, et justement le comité IDAO, France, qui a décidé de déposer plainte auprès de la Russie, contre Ramzan Kadyrov, à la CPI. Le problème qui se pose, c'est que la Russie s'est retirée de la CPI en novembre 2016, mais il faut un an pour que le retrait soit effectif, et donc ça sera en novembre 2017. Donc la CPI a peu de temps pour réagir et investiguer. Ouais. Et personne n'est allé sur place, parce que c'est impossible.
C'est le gros problème.
Mais seule la CPI peut, elle, entre parenthèses, enquêter sur place. Et il y a justement le 16 mai, la France a décidé d'octroyer des visas humanitaires à tout Tchétchène LGBT qui en fait la demande, et avec un traitement d'urgence, comme le Canada l'a fait au tout début de l'affaire.
Parce que le plus difficile dans cette affaire, c'est effectivement d'obtenir des informations sur... Alors c'est vrai que maintenant, un mois après, comme tu le rappelais, on commence à avoir des informations de personnes, notamment des témoignages.
Informations matérielles sur la situation sur place.
La Novaya Gazeta, en fait, ce qui s'est passé, ils ont enquêté, mais secrètement, sous de fausses identités, etc. En Tchétchénie, il est très difficile, pour Amnesty International le disait dans ses réponses, d'aller sur place pour se rendre compte de ce qui se passe.
Il est impossible. De toute façon, les autorisations de tournage sont refusées. Si t'es journaliste, t'es tout de suite arrêté. Alors, c'était pas une journaliste, mais c'est deux qui ont été assassinées. Une, c'est vrai, dans l'escalier. La seconde, rentrant chez elle, qui a été kidnappée, qui a été assassinée et jetée sur les chemins de fer.
C'est en Russie, on rappelle bien, c'est des journalistes de la Novaya Gazeta.
Gazeta, d'ailleurs, la journaliste qui a écrit les articles, il y en a eu plusieurs, a reçu un courrier piégé à la rédaction, donc ils ont vidé les locaux, et maintenant elle travaille en lieu sécurisé, dans un lieu secret, et non dans la rédaction. Ça aussi, c'est révélateur, parce que, encore une fois, Ramzan Kadyrov, qui est soupçonné de l'assassinat des deux journalistes, puisque voilà, les journalistes enquêtaient sur Arnaud Gadarov, qui est, bah, voilà, il n'y a pas de difficulté à dire, mais c'est un tueur. Enfin,
c'est un chef de clan, déjà.
Ouais, déjà, entre autres. Et il commandite,
c'est une société clanique, voilà, la société.
Il commandite des meurtres, il nettoie, il est pur.
C'est une toute petite république, la Tchétchénie.
Mais c'est tout petit.
1,5 million d'habitants.
C'est tout petit.
Au nord du Caucase. Mmh, j'ai dû regarder sur la carte.
Au nord du Caucase. C'est tout petit. C'est assez riche. C'est un développement exponentiel aussi du secteur immobilier. Mais bien sûr, la richesse est concentrée dans un seul clan. Hein. Et voilà. Enfin, il n'hésite pas à appeler son peuple pour tuer toutes les tares de la république. On peut pas oublier que c'est une république islamique. Ah, c'est important à préciser.
Mais qui lutte contre l'État islamique, par contre. C'est des opposants.
Ah oui.
Hein. Bah, logiquement, ils sont sous la tutelle de Moscou quand même. Hein.
Non, mais c'est vrai, mais c'est comme l'Arabie saoudite qui lutte contre l'État islamique, mais qui découpe des têtes à côté, homosexuels.
Non, mais c'est vrai, mais il faut quand même le rappeler.
Voilà,
il y a des gens qui sont enfermés aussi en Tchétchénie pour suspects d'être
C'est différent.
Sympathisants
mais
de l'État islamique.
C'est une république islamique telle le modèle de l'Iran.
Oui.
C'est, voilà, donc système, comme tu disais tout à l'heure, c'est le système patriarcal, le clan, la famille, l'homme au central. Voilà, après, les choses, honnêtement, je pense pas qu'elles vont avancer parce que il est tellement difficile, comme tu disais, d'y accéder sur place. J'entendais, il y a pas longtemps, je lisais qu'un militant LGBT voulait se rendre sur place. Je pense que c'est du suicide. Et je pense que c'est se mettre en danger inutilement. C'est pas en y allant. De toute façon, c'est grand la Russie. Pour y accéder, je pense qu'ils vont vite arrêter bien avant. Trois Russes ont créé une pétition avec Amnesty International en plusieurs langues. Et ils ont voulu la remettre justement à la responsable des droits de l'homme qui est en Russie, qui elle-même a tenu des propos homophobes. Alors, de droits de l'homme. Ils ont voulu la remettre la pétition un jour. Et comme par hasard, juste avant qu'ils la déposent, ils ont tous été arrêtés chez eux avant de déposer. C'est assez révélateur sur le fait que on demande à la Russie d'enquêter, la Russie dit oui, on va enquêter, mais il y a ça derrière. Voilà. Enfin.
Il est certain que le chef d'État, le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, donc c'est aussi quelqu'un qui est adoubé par Vladimir Poutine.
Mais bien entendu,
c'est un proche en fait de Vladimir Poutine.
C'est un proche, mais parce que Vladimir Poutine veut la stabilité, la Tchétchénie, il veut pas la guerre qu'il y a eu en 2002, il veut pas la déchirure du clan. Il sait très bien ce qui va lui tomber sur les bras s'il se retrouve à être confronté à Ramzan Kadyrov sur ce genre de situation. Mais quand la Russie demande à Kadyrov d'enquêter lui-même sur les allégations d'exactions contre les homosexuels en Tchétchénie, enfin, c'est ridicule. C'est comme donner la garde la garde d'un enfant à Marc, à un pédophile. C'est juste, c'est stupide. On sait que ça mènera nulle part.
Alors, pour revenir à la Novaya Gazeta, j'avais pris quelques infos. C'est un quotidien qui existe depuis 1993, qui a été fondé par des journalistes, d'anciens journalistes célèbres, Pravda, qui était l'organe officiel du Parti communiste à l'époque de la Russie soviétique. Mais eux ont dit, on va créer une presse plus indépendante du pouvoir. Et depuis l'ère Poutine, surtout, ils rencontrent de grandes difficultés liées avec le pouvoir central, donc. Ils ont affaire à de nombreux procès. Et on parlait de deux journalistes, mais depuis l'an 2000, j'avais noté 6 journalistes du journal ont été assassinés. 6 journalistes, ouais.
Moi, j'avais vu deux femmes, ouais.
Ouais, rappeler que ces assassinats sont venus dans des contextes situés en dehors de leurs activités journalistiques, genre victimes d'accidents de la route, Bon. Il y a quand même 300 journalistes en Russie qui ont disparu.
Ah,
je ne sais pas s'ils sont morts ou pas, mais qui ont disparu.
Enfin, ils pourrissent sûrement dans un charnier. Hein. Enfin, ça, il n'y a pas de doute
là-dessus. En 20 ans. Oui. Voilà. Bien. Eh ben, c'est génial. On s'amuse bien en Russie, en Tchétchénie.
Oui.
Nous aussi, on a nos homophobes quand même.
On en a beaucoup.
Voilà, on en a beaucoup. Bon, on va pas dire que c'est des gens comme Kadyrov, mais on va pas aller jusque là.
Mais qui pourrait
qui pourrait peut-être si
leur donner la possibilité, ils pourraient.
Voilà, mais nous sommes en France, nous savons que l'homophobie normalement est condamné par la loi, mais il y a quand même toujours des moyens de pouvoir, exprimer son opinion et la faire passer, et puis dans les actes aussi, la faire passer dans les actes. Moi, je veux, encore une fois, on en a souvent parlé, Lolo, Laurent Wauquiez, je sais pas s'il faut prononcer le Z, qui est, on peut le dire, une personnalité homophobe locale notoire.
Oui, mais oui.
Hein ? Alors, pourquoi j'en reparle ? Parce que, d'abord, on en a beaucoup parlé ici déjà, donc on va pas s'étendre, on sait qu'il a notamment... Parce qu'il est très facile de, par exemple, faire voter des subventions, d'en retirer à certains groupes, et puis d'en rajouter à d'autres. Alors il va dire, oui, c'est pour faire des économies à la région, il faut cibler les associations les plus efficaces, comme oui. Par hasard, c'est les associations LGBT qui perdent leurs subventions, et les associations de chasseurs qui récupèrent...
Un million, trois millions.
Ah oui, mais ça, c'est par millions d'euros. Alors que les associations, l'ensemble, par exemple, des cinémas LGBT, puisqu'on en a beaucoup parlé... Ouais,
Saint-Étienne, tout ça, oui.
Voilà, Saint-Étienne, Grenoble et Lyon qui ont perdu leurs subventions, mis ensemble, c'est pas plus de 10 000 euros.
C'est rien du tout.
C'est vraiment une part infime, à côté de ce qui est subventionné, 3 millions c'est ça, 3 millions d'euros à la Fédération régionale des chasseurs. Il y a aussi eu une subvention très idéologique, c'est celle du syndicat de l'UNI, en fait, qui est un syndicat étudiant marqué très à droite. Certains disent même très, très, très à droite, presque du côté extrême droite, quoi. Bon, après, ça, tout ça, c'est des on-dit, mais c'est vrai que c'est quand même un syndicat qui est plutôt plus proche de Laurent Wauquiez que d'autres personnalités politiques, et comme par hasard, il reçoit des sous aussi, alors que les associations LGBT n'en reçoivent plus. On a vu la disparition de la délégation régionale à la lutte contre les discriminations. Ça concerne tout le monde. La quinzaine de l'égalité homme-femme a été également supprimée parce qu'elle était suspectée de promouvoir la fameuse théorie du genre, etc. On est bien là dans un contenu idéologique, je veux dire.
Mais bien entendu, et en plus, moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que Laurent Wauquiez,
non, pas lui, c'est un autre.
Mais tu lui ressembles un peu. Laurent Wauquiez est mis en examen aujourd'hui pour détournement de fonds publics. Donc, moi, ça me fait plaisir que la justice se réveille et voilà. Donc, voilà, il est mis en examen. Ça va peut-être lui rappeler qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent public, vu que c'est ce qu'il fait depuis un moment.
Et il avait commencé par diminuer la subvention à la maison d'Izieux. Et ce sont des Allemands qui sont venus apporter de l'argent à cette association.
Oui, des enfants d'Izieux.
C'est vraiment une honte. Hein.
Qui se rapporte à un fait donc,
historique.
Historique, voilà, important, de la Seconde Guerre mondiale. Donc Laurent Wauquiez, c'est un personnage idéologiquement très douteux, très marqué en tout cas. Et dans le cadre de notre émission, nous le considérons à juste titre comme l'homophobe de service à l'heure actuelle, à la tête de la région.
Comme beaucoup de politiques, mais c'est vrai que lui...
Lui, il met en...
Il a marché avec la manif pour tous, avec le sens commun, enfin...
Voilà. Et une fois la région, il met en application...
Voilà, pas de souci de ce côté-là, il assume en plus.
Alors, notamment, rappelons aussi que le char de la LGP, enfin... Le financement, pas le char, le financement de la Lesbian and Gay Pride a été supprimé par la région, évidemment.
D'accord.
Je crois que c'était quelque chose de 5 000 euros. Et la Lesbian and Gay Pride donc, lance un appel pour des dons privés, hein, pour pouvoir notamment financer le char cette année sur la marche des fiertés à Lyon. Voilà, donc tout ça, c'était pour rappeler qu'on est dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et que nous aussi, nous avons nos homophobes de service.
Oui.
Malheureusement, l'émission va toucher à sa fin, mais Mehdi, avant de l'émission, encore une fois, en antenne, et puisque tu es un militant, nous l'avons vu jusqu'au bout des ongles, on a un peu évoqué le gouvernement qui vient d'être nommé, là. Et toi, tu aimais, en ce qui concerne, hein, dans notre cadre hein, de l'émission et puis de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, toi, tu aimais des doutes sur le côté LGBT-friendly, finalement, de ce gouvernement, alors que Macron était présenté comme quelqu'un de plutôt acquis hein, à la cause...
Mais oui, alors Macron, on se dit ouvert, veut ouvrir la PMA pour les couples homosexuels, etc. À la tête du gouvernement, donc le Premier ministre, un opposant à la PMA, donc voilà. Il met aussi ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, celui-là même qui refuse toujours, un, de se positionner sur le mariage pour tous, et deux, de marier des couples de même sexe. Et troisièmement, aujourd'hui encore on l'a entendu, hein, on a en ministre des Actions et de la Vie publique, de la Transparence publique, on a Gérald Darmanin, des Républicains, qui est un fervent défenseur pour l'abrogation de la loi Taubira, donc via plusieurs tweets, et puis il a dit plusieurs fois à la télévision sur BFM TV que lui il veut abroger la loi Taubira. Donc moi je me pose des questions, simplement quelle cohérence ce gouvernement a, étant donné qu'à la tête du gouvernement on a trois personnes qui sont en contradiction avec la parole du président, sachant que le président lui veut une présidence qui est le président préside, le gouvernement gouverne, c'est-à-dire il veut une séparation des pouvoirs, parce que c'est l'article 20 de la Constitution de la 5e République dit que c'est le gouvernement qui gouverne. Donc le gouvernement aujourd'hui, c'est Édouard Philippe. Moi, d'avance, je sais, enfin, ça se voit, on sent, on pressent que la PMA va être enterrée comme bien d'autres sujets sociétaux.
Oui. D'autant plus que Macron, quand même, il, comme un peu François Hollande, il s'est défilé derrière l'avis, le fameux avis oui. qu'on attend toujours du Conseil consultatif
du Conseil
national d'éthique.
Conseil, le CCNE qui, encore une fois, a refusé l'ouverture du don du sang, l'ouverture du don du sang aux homosexuels, il l'a refusé. Donc là, on demande l'avis au CCNE. Enfin, on connaît déjà la réponse. Donc voilà. Donc merci Monsieur Macron. Enfin, il a un gouvernement qui est de droite, de gauche, de centre-droite. Enfin, on ne sait pas.
On ne sait plus trop.
Ouais, on ne sait plus. Non, mais honnêtement, c'est déconcertant parce qu'on ne sait plus où on se retrouve plus. Donc on a des ministres qui sont en contradiction avec la parole présidentielle. Enfin, il manque de cohérence. Donc,
oui. Après, on peut dire aussi que ces ministres-là ne sont pas dans des postes qui concernent justement
c'est vrai.
L'extension des droits.
C'est vrai, mais le Premier ministre, lui refuse la PMA. Catégoriquement, il l'a dit, il l'a redit. Enfin, il l'a tweeté, il l'a écrit, il l'a dit dans les interviews et à la télévision. Donc, est-ce qu'il va aller à l'encontre de ses convictions personnelles ? Honnêtement, j'en sais rien.
Ouais. Alors, de toute façon, ce qu'on peut supposer, je suppose que on va être plutôt dans une situation de statu quo, en fait. Pendant 5 ans, on ne va pas voir avancer beaucoup de choses. On va rester là où on en est.
De toute façon, les législatives arrivent et on verra.
On verra.
S'il fonctionnera sur ordonnance ou 49.3, ou s'il aura une majorité, et là, tout fonctionnera, ou tout partira en vrille, on verra.
En tout cas, merci Mehdi Haïfa d'être venu, d'avoir évoqué donc avec nous le refuge à nouveau, d'avoir évoqué ton association, enfin l'association que tu as fondée, l'Amicale des jeunes du refuge. Alors, est-ce qu'il y a des liens pour ton association notamment ?
Alors nous, on a un compte Twitter, c'est Amicale Refuge, Amicale avec un E, parce que c'est une amicale, donc Amicale Refuge. Et pour le Facebook, c'est Amicale jeunes du refuge. Et on a un Tumblr qui recense tous les propos homophobes qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Paye ton homophobie.
Ouais. Donc ça, je rajouterai aussi, je rappellerai les liens, comme je fais habituellement, sur les sites liés à l'émission, Facebook et le site de l'émission qui s'appelle Pluriel Gay, que je vous invite à aller consulter. J'ai parlé donc de soutenir le char 2017 des associations LGBTI de Lyon, de la Lesbian and Gay Pride. Il faut aller sur Hello Asso et taper Lesbian and Gay Pride, on veut faire un don, pour faire des dons qui vont de 1 euro à 1 million d'euros. Voilà. Enfin, il n'y a pas de limite après. Bon, si un riche nous entend, riche milliardaire nous entend et veut bien financer. Voilà, le char qui est en difficulté à cause de la suppression des subventions de la région à toutes les associations LGBT de la région Auvergne-Rhône-Alpes par notre ami Laurent Vauquiez.
Mais c'est pas grave.
C'est pas grave.
Décarté, ouais. Non, c'est pas grave.
Voilà. Sinon, je rappelle aussi le site que j'ai évoqué, je rappellerai le nom, c'est le site suisse concernant la Tchétchénie, qui est très bien fait, très détaillé en plusieurs langues, en français, en anglais, en allemand. C'est donc nocamp, nocamp.ca, je rappellerai aussi. Tout ça sur les réseaux sociaux. Mehdi, encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Tu es le bienvenu, tu peux revenir quand tu veux parce que tu as toujours des choses très intéressantes à raconter, à dire. Bernard, merci d'avoir une nouvelle fois affronté ce long périple qui te ramène jusque dans cette lointaine banlieue du centre de Lyon. Affronter tous les dangers, tous les périls que tu as rencontrés en chemin.
Mais c'est un plaisir quand même.
Alors la semaine prochaine, je sais que tu n'es pas là, mais nous retrouverons Boris à la technique avec une nouvelle émission dont je n'ai pas encore le contenu. Je suis en train d'y travailler, mais il y aura certainement des invités comme il y en a toutes les semaines. Merci, merci à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir sur Pluriel Gay.
Merci.
Et à la semaine prochaine.
Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.